Ah, bonjour à ceux que j'ai pas vus. J'espère que vous allez bien. Pour moi, les vacances se terminent demain. Je reprends le boulot. Mais ça va. J'ai un travail. Merci Seigneur. Alors, ce matin, quand on a vu la pluie, la première des choses à laquelle on a pensé avec Soraya, c'est le jardin. On a pensé au jardin. Ah, ça arrose le jardin. Les fruits, les fleurs. Et je pense qu'aux yeux de Dieu, on est aussi comme des jardins arrosés. Et le Seigneur, quand il vient visiter son jardin, il vient en respirer les bons parfums qui s'en exhalent. Et le Seigneur aime visiter ses jardins. Quelquefois, il croise des ronces, des épines. Alors, que nous puissions toujours désirer que le Seigneur puisse nous aider à enlever les épines et les ronces des fois qui veulent revenir dans notre jardin. Voilà. Mais c'est pas mon sujet. Je vais commencer par un verset, le verset de la Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Un psaume, psaume 139, 1 à 6. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Une parole de l'apôtre Paul dans les Thessaloniciens, chapitre 4 et au verset 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 4, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Car posséder son corps, c'est posséder ses pensées. Et Dieu veut que nous ayons des pensées pour Christ. La pensée. Alors, je vais essayer d'expliquer la pensée, ce qui n'est pas forcément mon domaine. La pensée est un exercice du cœur et de l'esprit. C'est l'expression muette, mais bien vivante de l'âme. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons commence par être pensé. J'espère, du moins. En dehors du réflexe, qui est une réaction brutale de l'instinct de conservation, tout ce que nous disons et faisons commence par être pensé. Penser, c'est donc former dans son être intérieur. C'est penser, c'est concevoir, c'est l'art de combiner, d'ordonner toutes sortes d'idées, de réflexions. Cette faculté de penser, elle est extraordinaire. Nous la tenons de Dieu lui-même. Elle représente un don de Dieu. Nous est-il déjà arrivé de remercier Dieu pour cette faculté qu'il nous a donnée de penser. Dieu pense. Et il a voulu que l'homme pense. Et la faculté de penser chez nous est l'un des traits de son image reproduite en nous. Dieu pense, il a voulu que nous pensions aussi. En nous donnant cette faculté de penser, il a désiré, Dieu a désiré, que nos actions soient réfléchies, que nos paroles soient réfléchies, comme les cieux l'ont été, comme les cieux, la création a été réfléchie. Il nous a fait à son image. Et l'homme pense parce que Dieu l'a voulu. La pensée chez nous peut ressembler, ou peut-être comparée à une pellicule intérieure sur laquelle viennent se fixer en grand nombre nos idées et nos réflexions. Cette pensée est à la parole ou à l'action ce que peut-être la pellicule photographique est à l'image. Assistée de l'imagination, la pensée peut représenter une véritable vue intérieure. L'imagination, tête chercheuse de l'intelligence, peut véritablement faire que nos pensées représentent une vue intérieure dans un monde intérieur, un univers intérieur dans lequel nous pourrions nous complaire et dans lequel nous pourrions vivre. Nous ne sommes jamais vides intérieurement. Nous pensons sans cesse à des choses bonnes comme à des choses mauvaises. Notre vie intérieure s'alimente constamment de nos pensées. Nos idées arrivent de toutes parts, comme les neutrons, les protons. Et parfois, y mettre de l'ordre, c'est pas toujours facile. C'est un univers qui échappe au regard. C'est un univers qui échappe au regard. Et il reste un peu sauvage chez l'homme. Un univers que nous sommes surtout pas forcés de discipliner, puisqu'il est caché. Et pourtant, c'est à ce niveau-là que Dieu commence avec nous. C'est à ce niveau-là que Dieu nous connaît. C'est à ce niveau-là que Dieu nous juge. Dans Proverbes, au chapitre 23 et verset 7, il nous y dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Dans d'autres passages, il est écrit « L'homme est tel que sont les pensées de son âme. » Car au fond de lui, il est calculateur, mange et boit, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ah tiens, c'est pas la même version que j'avais pris. Moi j'ai « L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. » Nous, nous dirions plutôt « L'homme est tel que sont ses actions. » Nous, on va dire plutôt « Eh ben, l'homme est selon ses paroles. » Car nous apprenons à connaître quelqu'un que lorsqu'il agit, lorsqu'il s'exprime ou lorsqu'il écrit. Mais lui, Dieu, il dit pas « je connais l'homme en fonction de ses actions ou de ses paroles ou de ses écrits ». Il dit « l'homme est tel que sont les pensées de son cœur ». Et donc, à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que Dieu nous connaît et qu'il apprend à nous connaître. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il nous est rappelé que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur. Dieu connaît le secret des cœurs, rien ne lui échappe. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 25, il nous est dit « Car Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Et au proverbe 15, verset 26, il nous est dit que les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. C'est à ce niveau-là et sur ce plan-là que Dieu, déjà, nous connaît comme des pécheurs. Qui peut dire qu'il n'a jamais eu de pensée mauvaise? La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, mais d'abord par nos pensées. Aux Éphésiens, chapitre 2, verset 3, Paul nous dit qu'autrefois nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Nous sommes tout d'abord pécheurs en pensée. Et Dieu n'attend pas qu'une pensée mauvaise se traduise par un acte mauvais, pour condamner le péché. Une pensée corrompue, à ses yeux, il la considère comme le péché même. Ça va jusque-là? Vous devez penser, là. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 28, « Quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Déjà, par la pensée, Dieu nous juge et nous condamne par ses commandements. Dieu n'attend pas que le péché soit consommé pour l'appeler péché. Il suffit qu'il soit pensé. Dans Proverbes au chapitre 16 et au verset 30, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Nous pouvons déjà nous voir comme condamnés par ces quelques versets de l'Écriture. Effectivement, Dieu, nous connaissant dans le fond de nous-mêmes, dans les profondeurs les plus cachées, rien ne lui échappe. Il suffit même de concevoir une pensée de haine, une quelconque pensée de haine, pour que Dieu nous considère comme des meurtriers. Dans 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 15, « Quiconque haït son frère est un meurtrier. » Dans les évangiles, Jésus sondait les gens. Il sondait les gens qui étaient autour de lui. Il connaissait leurs pensées. Cela devrait même nous-mêmes nous faire réfléchir, nous faire frémir même. Cela devrait nous faire trembler. Parce que tout chrétien que nous sommes, qui peut dire qu'il n'a plus de mauvaises pensées? Après même des années de conversion, on se demande encore comment des pensées mauvaises peuvent encore venir, et elles viennent. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Il purifie notre cœur. Et quand nous nous sentons condamnés par une pensée mauvaise, qui nous vient comme ça, un peu folle, un peu vagabonde, une pensée irrésistible, nous pouvons aller à Jésus pour le lui confesser, lui dire et nous en séparer. Le sang de Jésus est valable pour nous purifier, pour purifier nos pensées, pour nous garder propres intérieurement. Mais comment se garder propre intérieurement? Certainement pas avec du savon de Marseille, ça marche pas. Souvent, on nous est dit, enfin, on raconte cette, je sais pas si vous avez entendu déjà cette phrase, certainement, la vie est un théâtre où chacun joue son rôle. Il arrive que dans les églises, beaucoup vivent avec une façade et que beaucoup vivent avec des masques. Nous vivons dans un siècle de façades et nous vivons dans un siècle où il y a des masques. Devant Dieu, lui, le masque ne tient pas. Si nous pouvons tromper nos frères et nos sœurs, on ne trompe pas Dieu. Son regard à lui plonge au plus profond de notre cœur. Le masque fond devant sa brûlante sainteté. Comment garder des pensées pures? Comment garder des pensées nettes? Comment garder des pensées qui l'honorent? Comment garder des pensées qui le glorifient? Des pensées qui le servent? Des pensées qui lui font plaisir? Dans un siècle où explose le péché et la corruption, comment garder des pensées pures? Pour se garder dans la sainteté. L'Épître aux Hébreux nous éclaire un peu sur le sujet, et je crois qu'un peu, beaucoup même. Hébreux chapitre 4 et au verset 12. Il nous est dit que la parole de Dieu juge nos pensées et nos sentiments. Dieu s'en occupe de nos pensées et de nos sentiments. Pour garder nos pensées selon Dieu, pour garder des pensées pures, il faut les placer sous un éclairage biblique. Il faut les mettre à l'épreuve de la parole de Dieu. C'est pas toujours facile de faire cela parce que la parole, parfois, nous condamne. Elle juge les pensées et les sentiments. Il nous faut donc absolument les placer sous un éclairage biblique, c'est indispensable. La parole de Dieu fera la lumière au niveau de nos pensées. Elle écartera les mauvaises pensées. Elle les condamnera. Elle les jugera. Mais la parole de Dieu aussi soulignera les pensées qui l'honorent. La parole de Dieu soulignera tout ce qui glorifie le Seigneur. Toutes les pensées que le Seigneur aime, il les soulignera. Toutes les pensées que le Seigneur affectionne, en particulier. Donc, pour garder nos pensées, il nous faut absolument posséder la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 16, l'apôtre Paul a pu prononcer ces paroles. Il a pu dire « Nous avons la pensée de Christ ». Alors, l'apôtre Paul me fait bien envie. Nous voudrions tous avoir la pensée de Christ pour marcher dans ses voies, pour le glorifier, pour resserrer les liens avec lui. Mais comment avoir la pensée de Christ? Sinon, en étudiant la parole. Oui, en étudiant sa parole. Nous imprégner de sa parole et donc de sa pensée. L'étude de sa parole et de ses commandements. La serrer contre notre cœur pour ne pas pécher contre lui. Il nous faut absolument avoir sa pensée et pour cela, il nous faut nous imprégner de ses paroles. Aimer sa parole et la dévorer. Et à travers sa parole, chercher quelle est sa pensée pour que nous puissions nous en saisir, pour qu'elle devienne notre pensée. Que le Christ puisse lui-même, comme pensée par notre cerveau, quant à nos choix professionnels, quant à nos choix de carrière, quant à nos choix d'épouse ou d'époux, quant à nos choix de loisirs, quant à nos choix de service pour lui, pour que nos pensées soient gardées, il nous faut aussi et surtout une vie de prière authentique. Et je pointe déjà le doigt sur moi, avant de le pointer sur les autres, je pointe déjà sur moi. Il faut que tu aies une vie de prière authentique. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour que nos pensées soient gardées, il faut absolument un engagement dans la prière. Il nous faut, à travers la prière, tisser un lien permanent avec notre Sauveur. Et puis, pour que nos pensées soient encore gardées, il nous faut aimer Dieu de toute notre pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta pensée. Des fiancés ou des mariés pourraient comprendre ce que je viens de dire. Lorsque j'ai rencontré Souraya, mes pensées n'étaient que pour elle. Je ne pensais qu'à Souraya. J'étais au travail, j'étais à la maison, je pensais à Souraya en me disant vivement le moment où je vais la revoir. Mes pensées étaient orientées vers elle. Elle occupait toutes mes pensées. Je vous assure aujourd'hui, elles occupent encore mes pensées. Ai-je pu dire que je l'aime encore aujourd'hui? Aimer Dieu, c'est être au point que nos pensées soient prisonnières de lui, prisonnières de Dieu, captives en lui et orientées vers lui. Mais comment aimer Dieu de cette manière-là, alors que tant de choses ici-bas nous occupent, nous sollicitent? L'apôtre Paul nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour cela. Lorsque Dieu voit chez nous un réel désir de l'aimer, il nous en donne les moyens. Il nous en donne les moyens en déversant dans notre cœur un amour suffisant pour l'aimer de toute notre pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Oh oui, merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui déverse cet amour dans nos cœurs pour que nous puissions l'aimer selon ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 5, l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous cherchons à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que nous cherchons. Et dans le livre des Philippiens, au chapitre 4 et au verset 8, il nous est dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai. Qu'y a-t-il de vrai dans ce monde? Tout est faux. Tout est mensonge. Ce qui est vrai dans ce monde, en réalité, ne peut que s'inspirer que du Seigneur. Il ne peut que procéder que de lui. Pour ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées, c'est à Jésus qu'il nous faut regarder. Il est la vérité. Lui seul n'a jamais cherché à tromper les gens. Lui seul n'a jamais péché. Il est dit aussi que tout ce qui est honorable. Mais qu'est-ce qui est honorable dans ce monde? Ici-bas, qu'est-ce qui est honorable? Qu'est-ce qui peut mériter l'honneur? Tout ce qui peut mériter l'honneur ne peut procéder que de Christ, ne peut venir que de Christ. La Bible nous invite à honorer le Fils comme nous honorons le Père. Il est dit aussi que tout ce qui est juste, nous sommes toujours à soupirer après quelconque justice, Mais hélas, où est la justice aujourd'hui? Eh bien, tout ce qui est juste ne peut provenir que de Christ. Tout ce qui est juste ne peut s'inspirer que de Christ et de sa parole. Il a été lui-même le juste, le seul juste que la terre ait porté. Là encore, pour que nous puissions avoir des pensées justes, pour que nous puissions aimer d'une manière juste, vivre d'une manière juste, il nous faut nous situer dans celui qui s'est appelé lui-même le juste, qui un jour viendra sur cette terre pour rétablir la justice. Il est dit aussi que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Dans un monde où explose la corruption, qu'est-ce qu'il y a de pur ici-bas? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a de pur ici-bas? C'est la même chose. Rien encore ne peut venir de pur ici-bas, si ce n'est que ça vient de Christ lui-même. Il a été sans péché. Et aux Juifs qu'il a rencontrés, il leur répondra ceci: « Qui de vous me convaincra de péché ?» Pour que nous puissions avoir des pensées d'une manière pure, vivre pur, marcher d'une manière pure, il nous faut nous situer dans le seul, dans la seule personne qui a été pure sur cette terre et dont la vie a été agréable à Dieu, son Père. Il est écrit aussi que tout ce qui est aimable, Jésus est le seul méritant. Il est le seul à mériter l'amour du Père. Il en a été le seul digne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection du Père a été orientée vers l'être le plus cher à son cœur. Son Fils. Son Fils qui devrait devenir l'être le plus cher à notre cœur. Notre Sauveur bien-aimé. Lui seul mérite vraiment d'être aimé. Il est vrai que Dieu nous aime. Nous ne savons pas pourquoi. Après tant d'années de conversion, moi-même, j'en suis encore à me demander, mais pourquoi Dieu m'aime? Je ne l'ai pas encore compris, je ne le comprends pas encore, et j'avoue que je ne vois encore absolument aucune raison qui ait pu faire que Dieu m'aime. Que tout ce qui est aimable. Oui. Et plus j'avance dans la foi chrétienne, et plus j'apprends à me connaître moi-même, et plus je découvre encore des choses. Seigneur. Que tout ce qui mérite l'approbation. Alors, qui pourrait ce matin se présenter ou présenter des œuvres à Dieu? Qui pourrait ce matin présenter des œuvres à Dieu qui pourrait faire qu'il soit sauvé et qu'il mériterait l'approbation de la part de Jésus et de Dieu son Père? Personne. Absolument personne. La Bible dit que tout ce que nous pourrions produire devant lui n'est que vêtements sales. Parce que nos mains sont sales par nature. Tout ce que nous pouvons produire avec la grâce de Dieu, c'est avec la force de Dieu que nous pouvons le faire. Et tout le mérite lui revient. Et pour cette raison, c'est pour cette raison qu'il nous faut servir dans l'action de grâce, dans la louange, dans le remerciement. Nous ne devons pas attendre un quelconque merci de Dieu quand nous le servons, mais nous devrions le servir en lui disant merci. Parce que c'est lui qui nous donne la force d'œuvrer à sa gloire ici-bas. Jésus seul mérite d'être approuvé dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a accompli de Bethléem jusqu'à la croix. Que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Jésus seul est vertueux. Jésus est seul digne de nos louanges, de notre adoration. Il est le seul digne de nos actions de grâce, de notre reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli. S'il y a quelques vertus qui peuvent exister ou qui peuvent être en nous, elles le sont par grâce et uniquement par grâce. De sorte que tout vient de lui. Tout procède de lui. Nous avons en lui toute la provision. Nous avons en lui toute la provision nécessaire pour aller de l'avant, pour le servir, pour le louer, pour le glorifier, en sachant que nous y avons nous-mêmes aucun mérite, aucune gloire personnelle, aucune vertu personnelle. Que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Puis je conclurai par ce dernier verset, Colossiens chapitre 3. À partir du premier. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà, je vous laisse avec ce verset qui va nous faire penser et réfléchir pendant cette semaine. Que Dieu vous bénisse à chacun. Merci de m'avoir écouté.